opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT-FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
C'est aujourd'hui que cela se passe. Dernière chance pour participer au concert de Fatoumata Kouyaté à Toronto, femme griot, très connue au Mali, mais aussi en Europe et à Montréal. Elle sera accompagnée de Mabine Bissila, originaire de la Guinée-Conakry, et Blandine, chanteuse interprète canadienne originaire du Congo, très connue dans la région de Toronto et à Montréal. Tous ces gens seront au Lula Lounge, aujourd'hui, 1585 Dundas West, à Toronto, ce dimanche 28 octobre, une paire de billets pour les membres de la radio, gracieuseté des organisateurs et producteurs Batuki Music Society et Lula Lounge. Et vous êtes invités, bien sûr, à souper avec l'équipe. Devenez membre et gagnez deux billets gratuits aujourd'hui, gracieuseté de Batuki Music Society. Ce dimanche 28 octobre, invitation au concert avec Fatoumata Kouyaté.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Eh bien, le bonjour, madame, monsieur, ce dimanche 28 octobre, c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole. L'ingénieur du son DJ Devera, assisté de Sloan Ballant au microphone, votre serviteur depuis 32 ans, Eric Adair, sur www.cut.fm. À toute Mounla Diaou, bonjour. où que vous soyez à travers la planète, nous avons une émission avec une brochette d'invités incomparables, extraordinaires. Merci à tout ce bon monde. Bonne journée internationale de la langue et de la culture créole jusqu'à 13h. Et oui, chaque année depuis 1983, le 28 octobre est une occasion de célébrer la langue et la culture créole à travers les pays et communautés ayant le créole en partage, soit plus de 10 millions de personnes à travers le monde. Ça fait beaucoup de monde et de nombreuses manifestations sont organisées un peu partout, enfin sur les 5 continents. Et nous avons une brochette d'invités pour vous, mesdames, messieurs, à ne pas rater. Et je vous rappelle que cette émission est réalisée conjointement aujourd'hui avec la 16e édition du colloque international des études créoles à Mahé, la capitale des Seychelles, ayant pour thème monde créole, langue créole, développement, enjeux éducatifs, culturels et économiques. Ce colloque dure jusqu'au 3 novembre prochain. Merci à nos partenaires, le Comité international des études créoles et l'Université des Seychelles. Radio France Internationale. L'objectif de ce colloque est de stimuler la recherche en études créoles, y compris les langues, cultures et sociétés créoles, et la diffusion de ces recherches à travers le colloque et à travers une publication académique mensuelle « Études créoles ». Et oui, au-delà de la controverse étymologique sur la langue créole, quel avenir pour le créole ? Par exemple en Haïti ou encore à l'île Maurice, à Martinique, le créole est-il une langue officielle dans certains pays et quels sont ces pays? Le créole est-il un dialecte ou l'une des langues de France? Oui, c'est une belle question. Quels sont les pays où l'on parle un créole à base de français? Peut-être nos invités répondront à cette question. Le créole à l'école ou au bac, comme on dit en France, est-il un atout pour les étudiants? Quelles sont les ressources, les bases de données permettant de pêcher les documents dispersés dans les océans d'informations et mettant en valeur les fonds patrimoniaux des îles du monde? Quelle est la place des créoles haïtiens au Canada, à Toronto? Les Haïtiens sont-ils des alliés de choix des francophones du Canada? Voilà une question que m'a posée une auditrice très, très branchée à notre émission depuis 30 ans. Dans un monde où l'intolérance, d'ailleurs on le voit encore aux États-Unis, en Europe, dans un monde où l'intolérance contre les minorités culturelles, linguistiques, sexuelles semble prendre de l'ampleur dans certains pays, y compris au Canada, j'espère de tout cœur que cette émission nous aide à apprécier les richesses et la beauté des cultures créoles du monde entier. Je l'espère vraiment. Participez à notre jeu concours, courez la chance de gagner des billets de concert ou une bouteille de tea punch de la Martinique. Nommez-moi 5 pays où l'on parle le créole. 5 pays, hein? 5 pays où l'on parle le créole. Vous pouvez nous écrire à popourri@cut.fm. Je remercie ici tous nos partenaires. Rapidement, le docteur Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti, philanthrope et fondateur de l'organisme Perspective Entraide Humanitaire. Hector Poulet, enseignant de la Guadeloupe et ardent défenseur de la langue créole. Et je remercie professeur Aurélie Lacassagne qui a écrit cet ouvrage très bien apprécié, « L'essai perspective créole sur la culture et l'identité franco-ontarienne », publié aux éditions Prise de Parole. Joyce Viramoutou qui est productrice, réalisatrice et animatrice originaire de l'île Maurice. Elle anime un magazine, le magazine des Mascareignes, qui comprend l'île Maurice, La Réunion et Rodrigue. Tenez-vous bien à Montréal, à Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Peggy Civil, qui nous écoute sur Internet dans la région de Gatineau où il neige abondamment. Et oui, elle est directrice générale, entrepreneur, conférencière, collaboratrice à Radio-Canada et responsable des communications du Festival des Cultures du Monde à Gatineau, dans la région d'Ottawa et Gatineau. Professeur Thomas Speer, qui est à l'Université de New York. Il est auteur de nombreux articles sur les écrivains francophones, y compris de France, des Caraïbes et du Québec. Et il a un très, très, très beau site web qu'il faut absolument aller rendre visite, Île en Île, qui fête ses 20 ans. Et je remercie aussi Bertrand Dical, ni noir ni blanche, c'est l'histoire des musiques créoles, un ouvrage écrit par notre invité, publié par les éditions de la Cité de la Musique sous le label La Rue Musicale. Suzy Paladidan, elle est auteure du Petit Dictionnaire Insolite des Créoles aux éditions Larousse. Professeur Arnaud Carpourane, il est linguiste, spécialiste des langues créoles, maître de conférence à l'Université de l'île Maurice et auteur du guide Le Créole Mauricien. Quel est le panorama linguistique de l'île Maurice, en savez-vous? Et enfin, je remercie infiniment la Fondation Sylvanie Lindor qui aide surtout les jeunes des minorités raciales francophones, mais créoles aussi dans la région de Toronto. Ils font un travail extraordinaire. Allez visiter leur site www.fslindor.ca. Dimanche 28 octobre, c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole et nous avons nos amis de Radio France Internationale qui organisent et participent activement à cette émission mais aussi à ces événements dans le cadre du mois. Vous savez, il y a pas seulement une journée mais un mois créole. Et je remercie toute l'équipe à Paris. Gaïd Evnou, elle est chef de la mission Langue, France et Outre-mer de la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Chantal Loyal, elle est directrice du festival danseuse et chorégraphe. Corinne Mensé-Caster, elle est l'ex-présidente de l'Université des Antilles. Et je vous laisse en leur compagnie pour avoir le goût justement des festivités à Paris qui durent jusqu'au 13 novembre prochain, si vous passez par là.
RFI.
Toute littérature, toute poésie ou toute esthétique qui contribue à mettre en évidence la créolisation du monde contribue par là même à combattre les intolérances et les sectarismes du monde.
Magnifique d'Edouard Glissant en 1995 sur RFI me semblait assez pertinent pour annoncer le mois créole, événement qui se déroule chaque année en ce début d'automne en région parisienne. On y danse, on y parle, on y slam, bref, on se métisse. Et ce grâce à Chantal Loyal qui est directrice de ce festival tout en étant danseuse et chorégraphe. Bonjour Chantal Loyal.
Bonjour.
Ça vous fait ?
Ça va mâcher.
Aïe, je suis au début de l'initiation, je ne connais pas votre réponse, je ne comprends pas votre réponse.
Sakamaché, ça veut dire ça va, je vais bien.
Bon, donc c'est leçon numéro 1.
Voilà, tout à fait.
Très bien. Votre compagnie s'appelle Diffé Kako, donc oui. Leçon numéro 2, ça veut dire quoi ?
Ça chauffe en créole. Diffé, c'est le feu. Kako, ça veut dire battre en langue caraïbe. Et en fait, Kako, c'est aussi le chocolat très fort des Antilles. Et donc, les deux mots à coller, c'est une expression qui veut dire « diffé caco ce soir, ça va chauffer
wow, ».
Donc,
wow.
Ça va chauffer pour toi si tu as fait une bêtise, mais c'est aussi « ça va chauffer » dans le sens positif.
Donc, on va voir si « diffé caco » dans De Vive Voix sur RFI aujourd'hui. Avec vous, Corinne Mincé-Caster, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes linguiste, vous travaillez à l'Université Paris-Sorbonne et pendant 4 ans, vous avez été présidente de l'Université des Antilles. Et Gaït Evnou, vous êtes chef de la mission Langue de France et Outre-mer à la DGLFLF, délégation générale à la langue française et aux langues de France. Autant dire que la chose est sérieuse. Bonjour.
Okay.
Votre présence ici, Gaït Evnou, atteste-t-elle que le créole est une langue de France ?
Oui, tout à fait. Le créole fait partie des langues de France dont je m'occupe. Les langues de France, en fait, ce sont toutes les langues parler en France, donc sur les territoires français, et effectivement, on peut souligner que les Outre-mer sont particulièrement riches en diversité linguistique. Donc, cette liste des langues de France, elle regroupe en fait près de 80 langues.
Ah oui, mais, c'est énorme. On pense qu'en France, on ne parle que français, mais pas du tout.
Eh bien, pas du tout, pas du tout. Et je tenais à souligner que si on dénombre les langues d'outre-mer, il y en a 55. Donc, les Outre-mer, en fait, participent beaucoup de la diversité linguistique de la France.
Et donc, le créole est une langue plutôt à part entière, ce serait pas du français corrompu, parce qu'on a pu lire ou entendre ça à une époque.
Oui, pendant longtemps, on a entendu ça. Finalement, c'est assez récent, la reconnaissance du créole comme une langue à part entière. Bon, ça tient au fait que souvent, on perçoit une langue comme... tout d'abord par son lexique, et c'est vrai que le lexique des créoles parlés sur les territoires français est un lexique en grande partie française, on les appelle des créoles à base lexicale française, mais en vérité, tous ces créoles ont une grammaire vraiment très particulière et tout à fait différente du français.
Donc vous parlez des créoles au pluriel, Corinne Mansé-Caster, combien on dénombre de langues créoles dans le monde ?
Alors, dans le monde, il y en a sans doute beaucoup, mais en général, on considère les créoles à base lexicale française. Donc, souvent, le créole de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Haïti. Il y a des créoles à base lexicale portugaise et des créoles à base lexicale aussi hollandaise. En revanche, il n'y a pas de créole à base lexicale espagnole.
Alors, le créole à base lexicale portugaise s'appelle, je crois, j'ai adoré le mot quand je l'ai découvert, parce que je viens de le découvrir, le papiamento.
Le papiamento, exactement.
C'est joli, parce qu'il y a dans papiamento le côté... on entend le son plutôt. Le papillage, je ne sais pas comment on dit. Ça cause, en tout cas, le papiamento. Non ? Mm-hmm.
Oui, tout à fait.
Combien de locuteurs du créole ?
Alors, il y en a à peu près... Haïti donne au créole beaucoup de locuteurs, puisqu'il y a énormément d'habitants. Donc, il y a plusieurs millions. Je ne peux pas vous dire exactement le chiffre pour ne pas me tromper. Mais quand on compte tous les pays où on parle créole, donc ceux que j'ai cités, et puis aussi la diaspora, puisqu'en fait, le créole est assez beaucoup parlé aussi aux États-Unis, notamment avec la diaspora haïtienne, au Canada. Donc, aussi en Île-de-France. Il ne faut pas oublier qu'on a une grosse communauté aussi créolophone ici. Donc, il y a plusieurs millions de créolophones avec une intercompréhension qui varie. Mais globalement, on peut dire que les créoles à base lexicale française, on arrive à être dans une intercompréhension assez confortable.
Mais il y a quand même des différences assez importantes qui peuvent parfois créer des confusions ou des incompréhensions.
Oui, mais on va dire que dans le gros, on peut arriver à se comprendre dès lors que le créole a une base lexicale française, on va quand même être dans une intercompréhension globale correcte, oui. Donc...
Émission spéciale aujourd'hui sur CUT 89,5 FM. Popourri Show vous aide à voyager, madame, monsieur, dans le monde créole. Chaque année depuis 1983, le 28 octobre, et ça tombe bien aujourd'hui, on est dimanche, c'est une occasion de célébrer la langue et la culture créole. Dans un instant, notre première invitée dans la région de l'Ontario au Canada, elle a écrit un livre, un essai qui fait jaser les francophones et les créoles aussi, de l'Amérique du Nord. Elle détient un doctorat en sciences politiques. Un DEA en études européennes à l'université Pierre Mendès en France et de Grenoble, et diplôme de l'Institut d'études politiques de Grenoble et une licence en langues étrangères appliquées qui comprend l'anglais, le russe, de l'université François Rabelais Tours en France. Qui est ce personnage ? C'est bien sûr professeur Aurélie Lacassagne, notre première invitée dans la région de Toronto. Bonjour professeur Diffé Kako, ça va chauffer ?
Ça va chauffer, Diffé Kako.
Justement, cet amour pour la langue française, pour les créoles en Amérique du Nord, oser écrire un essai sur le monde créole, un monde très complexe, on voit bien la diversité d'un bout à l'autre du globe. Quelle est votre expérience personnelle et relation personnelle avec le monde créole, professeur?
Pour moi, ça a été une découverte de la littérature créole en partie quand j'étais étudiante en France. J'ai eu la chance, je pense, d'avoir des profs de français qui étaient assez ouverts pour nous faire lire ces auteurs-là. Mais c'est vrai que moi, je suis tombée dans la marmite il y a plusieurs années en découvrant l'œuvre d'Édouard Glissant. Et c'est surtout ça qui m'a amené alors plus vers le son concept de créolisation que vers les langues créoles et puis finalement parce que rien n'arrive jamais par hasard c'est quelques dernières années en parallèle de l'ouvrage que vous avez cité Perspectives créoles sur l'identité et la culture franco-ontarienne j'ai aussi travaillé et je suis en train de terminer un livre sur une pièce de théâtre qui a tourné un petit peu au Canada qui s'appelle le Why West Show de Gabriel Dumont et qui est donc une pièce qui porte sur les métis dans l'Ouest canadien. Alors on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu plus longtemps, mais en même temps là aussi on voit bien une forme de créolisation qu'il a les langues parlées par les métis dans l'Ouest canadien, les différents métis. Alors je sais que vous avez des linguistes autour de la table qui ne reconnaissent pas le métis comme étant une langue créole. Pourtant, je pense que on voit bien que c'est une langue qui est avec une base effectivement française, lexicale principalement française, mais en même temps qui a été empruntée aux langues autochtones, principalement au cri, à la langue cri, et qui donc a connu, si vous voulez, enfin émerge d'un processus qui est relativement similaire à celui qu'on a vu dans les différents archipels.
Je trouve ça tellement riche ce que vous dites, parce que justement, en faisant mes recherches depuis un mois environ, il y a beaucoup d'activités et d'occasions de célébrer le mois créole dans les Caraïbes et en particulier en Haïti. Et il y a un groupe d'artistes qui a invité des métis du Canada, des autochtones du Canada, pour célébrer le mois créole en Haïti. J'ai trouvé ça tellement formidable. Donc, il y a des liens, hein?
Bien, il y a des liens. Ces liens sont en train de se créer. Moi, je pense que on n'en parle pas assez. C'est des cultures et c'est des langues qui ont toujours été à la périphérie, si vous voulez, alors que en même temps, ils sont situés au carrefour hein, des différentes, parce qu'on parle des archipels. Hein, souvent, toutes ces langues créoles qui ont émergé dans les îles. C'est les carrefours, c'est d'abord l'océan Indien qui a été un carrefour de rencontres civilisationnelles. Après, avec le développement de la traite, ça a été l'espace caribéen. Donc pourtant ce sont des cultures, des langues qui émergent dans des lieux centraux, mais à cause de l'histoire et du rouleau compresseur, voilà. On y reviendra sûrement, de la civilisation occidentale, ont été mis en périphérie et donc qui sont largement non reconnues, non comprises. Oui. Et bien sûr, c'est un peu la même chose pour les autochtones au Canada.
C'était une langue aussi qui voulait relever la tête aux colons pour que les colons n'arrivent pas à comprendre les jazettes des esclaves, ce que ma grand-mère et mes arrière-arrière-parents me disaient. Donc c'était une façon facile pour les esclaves de l'époque de parler une langue, un patois, un jargon, que les colons ne pouvaient pas nécessairement comprendre, et aussi à travers la danse, hein, si on regarde un petit peu le rythme, les tambours et toute la culture vaudou, par exemple, c'est toujours pour combattre l'oppression. J'aimerais rappeler aux gens, parce que j'ai entre les mains, c'est un peu mon livre de chevet, hein, votre livre, Perspectives créoles sur la culture et l'identité franco-ontarienne, édition Prise de Parole. Alors, c'est parce que je sais, il y a beaucoup d'enseignants, de professeurs qui nous écoutent. C'est un essai engagé qui cherche à cerner, tout en renouvelant les termes du débat, les phénomènes qui contribuent à la construction de l'identité franco-ontarienne. Et c'est très intéressant parce que cette fin de semaine se déroule le congrès de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. C'est cet organisme parapluie qui regroupe plusieurs organismes communautaires francophones. C'est un organisme à la défense aussi des droits des franco-ontariens. Et justement, un des sujets qui revient cette fin de semaine, c'est l'inclusion. On trouve que encore en 2018, cher professeur, on parle encore de l'inclusion parce qu'il y a des gens qui se sentent exclus de la communauté franco-ontarienne.
Oui, alors, il y a deux choses. La première chose, et je pense qu'il faut souligner quelque part une avancée, c'est qu'on est sorti du terme de la diversité pour passer à celui d'inclusion, ce que je trouve très intéressant. J'ai un problème assez fondamental avec le concept de diversité qui est un espèce de mot finalement. On a beaucoup parlé par exemple de la gestion de la diversité, hein, comme si ceux qui étaient marqués du sceau de la diversité devaient être gérés, donc comme si c'était des problèmes. Puis on a eu ce concept de diversité, il a été critiqué par beaucoup, notamment beaucoup de penseuses féministes postcoloniales. Je pense à Bernard J, par exemple, parce que bon, ça fait un espèce de discours un petit peu mythique, mais ça reflète pas beaucoup la réalité, puis ça sert une fois de plus à exclure. Et puis ça réifie, hein, les différentes communautés, hein, on les met dans des petites boîtes ethnoculturelles. Donc le fait qu'on commence à abandonner ce concept de diversité pour passer à celui d'inclusion, ça me paraît intéressant. Maintenant, c'est sûr que il y a encore un énorme travail qui reste à faire en Ontario français pour effectivement inclure tout le monde dans la communauté, parce que moi ce que je défends dans mon ouvrage, c'est l'idée que l'identité et la culture franco-ontarienne telle qu'elle se construit depuis une quarantaine d'années, c'est une identité inclusive, c'est-à-dire qu'on ne naît pas franco-ontarien, on le devient. Tout le monde peut s'accaparer, si vous voulez, cette identité, parce que c'est une identité qui est fondamentalement culturelle.
Oui.
Et donc, tout le monde peut apporter sa pierre à cet édifice-là.
Alors, je rappelle aux gens que vous êtes avec nous tout au long de l'émission, parce qu'à la fin,
oui,
nous allons faire un genre de récapitulation pour conclure l'émission. Nous sommes vraiment très choyés de vous avoir des nôtres jusqu'à la fin de l'émission. Mais j'aimerais rapidement, parce qu'il y a des sceptiques, comme toujours.
Oui.
Il y a des
oui.
gens qui me disent, mais est-ce que un créole peut apporter, est-ce que la langue créole, la culture créole peut contribuer, est-ce que ça peut être un atout pour la communauté franco-ontarienne ou la communauté francophone du Canada? Et nous sommes allés faire un petit tour dans un monde créole, l'île de la Réunion, que peut-être vous connaissez, et nous écoutons rapidement les réactions des parents, mais aussi des gens qu'on a rencontrés sur le trottoir, parce qu'on est allé à l'île de la Réunion, il y a des lecci, c'est la saison des lecci et des goyaves en ce moment, et il fait très chaud. Comparable à Gatineau, où il neige. On écoute rapidement les commentaires. Est-ce que le créole est un atout pour le français?
Pour les 10 000 candidats réunionnais, le baccalauréat débutera réellement la semaine prochaine. Et parmi eux, 400 élèves ont choisi une option créole, facultative ou obligatoire. Une matière que certains professeurs souhaiteraient développer davantage. Et pour vous, le créole au bac est-il un atout pour les réunionnais? Inciteriez-vous vos enfants à s'inscrire dans cette option?
Et ça les motive à apprendre le créole. Et déjà, pour moi, je pense que c'est une bonne option, quoi. Voilà. Plus tard, pour les études, s'ils veulent devenir professeur aussi pour parler créole, pour moi, je pense que c'est une bonne chose.
Moi, je préfère que les enfants, quand ils grandissent, ils parlent un petit peu bien le français. Le créole, c'est pour nous à la maison, comme ça, mais pas dans l'école.
C'est ma langue à moi, donc ça serait bien qu'on l'étudie un peu plus, qu'on l'approfondit, qu'on apprend un peu plus sur le créole.
Mais comme la Réunion, maintenant, on parle que le créole, on dit que l'école sera bientôt à langue créole, ben pourquoi pas, mais je sais pas.
Ouais. Souvent, apprendre notre culture d'avant, apprendre la langue de nos ancêtres, comme on dit, c'est bien, mais après, enfin, question études, je sais pas si ça vaut le coup de prendre cette option, quoi.
Le créole au bac. Le créole réunionnais peut être une épreuve facultative ou une épreuve obligatoire dans l'enseignement général, technologique et professionnel. En 2014, 354 lycéens ont pris créole en épreuve facultative et 87 ont choisi la langue régionale en langue.
Eh oui, qu'en pensez-vous, cher professeur?
Mais je trouve ça très bien. C'est un très bon signe.
Oui.
Pour moi, la créolisation, donc cette relation qui nous inscrit dans la relation avec tout. L'humanité, elle est nécessairement multilingue.
Oui.
C'est un des concepts que j'aime beaucoup chez Glissant, cette idée de multilinguisme, en opposition au monolinguisme. Et ça fait le parallèle avec les identités. Hein. On sort de l'identité mono, de l'identité racine, unique, pour entrer dans une identité multiple, rhizomique. Et je trouve ça, c'est très important. Je pense pour les jeunes français d'outre-mer qui sont encore, on le sait, marginalisés quand même, discriminés, de pouvoir affirmer qu'ils parlent français, mais qu'ils parlent aussi le créole, que c'est une langue à part entière. Le fait que l'école française, qui est le terreau, qui est le berceau de la nation française, prennent en compte aujourd'hui ces réalités-là. Ça démontre une certaine avancée qui est positive, je pense, pour avoir des relations peut-être plus saines au sein de la nation française.
Une auditrice me dit, avez-vous remarqué qu'on peut vivre nos émotions surtout en créole? Nos plus belles émotions se vivent surtout en créole.
Mais je pense que oui, je pense que ça revient toujours à quelque part la langue affective, hein, ouais. la langue parlée à la maison, la langue maternelle.
Hein, une autre me part. Dit notre auditeur qui nous dit quand on considérera le créole comme une langue et non pas comme un exotisme de passage, on ne verra pas l'attrait de la jeunesse pour le créole comme une mode, mais comme un besoin de se réapproprier quelque chose qui est de l'ordre du maternel, de la constitution de l'individu.
Tout à fait. Hein. Donc cette réappropriation,
oui.
C'est important parce qu'on en est là aujourd'hui de tous les peuples qui ont été marginalisés dans le monde, de se réapproprier leur propre langue, leur propre culture, de l'affirmer, de créer dans ces langues-là et que ce soit reconnu comme étant effectivement de l'art, par exemple, et non pas comme du folklore, donc, ou de l'exotisme. Donc c'est extrêmement important de pouvoir passer par cette phase de réappropriation, comme les Noirs américains, par exemple, ont pu le faire, hein, en se réappropriant et en magnifiant une espèce de langue, si vous voulez, spécifique, hein, matinée, d'anglais et d'argot, si vous voulez.
Professeur Aurélie Lacassagne, madame, monsieur, de son livre « Perspectives créoles sur la culture et l'identité franco-ontarienne ». C'est un essai formidable à lire absolument aux éditions Prise de parole. Et je vous laisse parce qu'on va vous retrouver à la fin de l'émission avec un proverbe créole. Il y a beaucoup de citations célèbres aussi dans le monde créole. « Le soleil se couche, mais le danger ne se couche jamais ». Je vous revois dans l'autre section, l'autre heure avec nos invités à la fin de l'émission. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
Avec plaisir, à tout à l'heure.
Le blog du Zouk et Your Zouk TV présente Zouk Session Summer 2016. Plus de 40 hits Zouk, dont 3 inédits et un mix bonus exclusif de DJ Smile pour passer un été torride. Retrouvez tous les artistes les plus hot du moment avec Lorenz. Et laissez Priscilla, Mehdi Cousteau, Stony, ou encore le duo Méni et Karine. Retrouve les tubes Zouk du moment, Milka et Johan. Compilation Zouk Summer 2016, la playlist qui va te faire danser tout l'été. Qui va te faire danser tout l'été. Disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal. Plus d'infos sur le blog du Zouk.fr.
Hi, this is Ken Stauer, station manager for CIUT-FM. I'd like to remind our listeners that the Sound of Your City membership drive campaign is fast approaching. The on-air drive will take place from November the 12th through to the 18th. We are looking forward to your financial support. If you love what you hear and if you value the creative programming that is offered on CIUT-FM each and every day, then I would encourage you to make your donation today. You may do so at our secure server, CIUT.FM. Just click on the Donate Now button. All donors will be eligible for the exciting grand prize draw of return airfare for two to Iceland with hotel accommodation included and more. So please help us make this membership drive campaign a success. You can help us do so by donating in advance right now at CIUT.FM. CIUT-FM 89.5, bringing you the sound of your city every day.
That means hello everyone. Iswatundage, you are all listening to CIUT Wadrenota. You're listening to CIUT Radio 89.5 Nikantro. It is placed at the frequency of 89.5.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance.
Tierra de Alianza.
Este es Terre d'Alliance.
Sur France Inter.
Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour. Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes, tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça,
pourquoi pas? Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Il paraît que si vous...
Eh oui, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui que ça se passe. Fatoumata Kouyaté est déjà à Toronto pour un concert unique ce soir à 20h au Lula Lounge. Elle sera accompagnée de Mabindi Sila et de la chanteuse interprète canadienne Blandine. Soyez des nôtres au Lula Lounge en ce 28 octobre. Une paire de billets pour les membres de la radio. Gracieuseté des organisateurs et producteurs Batuki Music Society et Lula Lounge. Soyez des nôtres pour un souper à ne pas manquer, un concert, une soirée inoubliable avec nul autre que la femme griot du Mali en direct à Toronto, Fatoumata Kouyaté.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Ça va bien. Ah, vous nous faites plaisir. Nous pas même envie bâti. Levez la main, 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 levez la main. Pas belle, pas belle, pas belle, pas belle, pas belle. Ah, 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 ah. Ah, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes contents? Joli, ça c'est cassa. Number one. Ciao. C'est parti.
Bonne fête, madame, monsieur, que vous soyez à travers la planète. Aujourd'hui, 28 octobre, c'est la journée internationale de la langue et de la culture créole. Une émission en direct à Toronto 89,5 FM. Oui, cette émission est réalisée aujourd'hui en collaboration, en liaison avec le 16e colloque international des études créoles qui se tient à l'Université des Seychelles et la deuxième édition du festival Le Mois Créole qui a lieu en ce moment à Paris jusqu'au 13 novembre. Eh oui, saviez-vous qu'ils sont plus de 19 millions de personnes dans le monde qui s'identifient comme créolophones ? Quels sont les pays où l'on parle créole. 5 pays seulement. Et nous attendons votre appel. J'ai une bouteille de Tiponche. C'est un rhum très fort, créole, de la Martinique à vous offrir, madame, monsieur. Et il faut résider en Ontario, au Canada, pour recevoir ce cadeau. Je ne pourrai pas prendre la chance d'envoyer ce cadeau par courrier. Et moins encore par courrier électronique, n'est-ce pas? Ni noir ni blanche est l'histoire des musiques créoles écrite par Bertrand Dical et publiée par les éditions de la Cité de la musique sous le label La Rue musicale. On a lu l'essai avec grand intérêt et on a fait le lien avec le nouvel album du trio Toto Bona Loqua. Le créole n'est pas le fait de certaines parties du monde, l'auteur affirme, avec les propos d'Édouard Glissant et son concept de tout monde, tout moon, une créolisation mondiale, lire ni noir ni blanche. Je vous laisse, madame, monsieur, avec Bertrand Dical, l'auteur.
J'avais envie depuis très longtemps d'écrire sur les musiques créoles, dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des livres sur la musique des Antilles françaises, il y a des livres sur les calypso, il y a des livres sur la musique brésilienne, il y a des livres sur la musique du sud des États-Unis. Mais il y a eu très peu de tentatives pour embrasser d'un seul coup toutes les musiques créoles qui sont nées sur trois continents pendant trois siècles. Ce qui est quand même un des patrimoines musicaux les plus importants, les plus profus et les plus divers de l'humanité. Ce qui m'a peut-être déterminé, c'est des rencontres avec Édouard Glissant. Édouard Glissant me parlant des langues créoles, des cultures créoles et de cette petite singularité que nous avons, nous, Antillais, de, dans quelque sorte, prophétiser un monde à venir, un monde à la fois sans frontières et sans une échelle des valeurs et une échelle des appartenances qui ressemble à celle selon lesquelles le monde a été gouverné pendant des années, pendant des siècles. Entre le blues, le reggae, le zouk, le calypso, la samba, le son cubano, il y a plus que des proximités, il y a quelque chose qui est une identité collective, et cette identité, c'est l'identité créole, qui est une identité qui n'est pas noire et blanche, c'est une identité qui n'est ni noire ni blanche. Considérons le monde créole pour ce qu'il est, un monde compliqué, difficile, douloureux, opaque, imprévisible, mais aussi un monde où la créativité est dégagée de la question raciale. Ce qui est singulier avec les cultures créoles, c'est que le plus souvent, leur créativité naît des très minces interstices dans lesquels la liberté est donnée aux dominés. Et que l'on est en permanence dans un rapport de fascination du dominé pour le dominant, mais également du dominant pour le dominé. Et des identités musicales nationales, le reggae en Jamaïque, le tango en Argentine, la samba au Brésil, la biguine chez les Français des Antilles, sont à l'origine des musiques du menu peuple, des musiques qui ont été pourchassées, rejetées, refusées par l'establishment. Ce sont des musiques qui sont venues du bas vers le haut. Aujourd'hui, c'est l'identité culturelle de certains pays, c'est le drapeau de certains pays, et pourtant, ce sont des musiques qui viennent de tout en bas de la société. La démarche de ce livre, c'est essayer de comprendre en quoi une musique créole est vraiment créole. En quoi une musique créole n'est pas noire, en quoi une musique créole n'est pas blanche, en quoi une musique créole ne se limite pas à une couleur de peau, et que, au fond, c'est un hommage à toutes ces générations qui me précèdent. Je suis descendant d'esclaves, je suis européen par ailleurs, et je sais qu'avant moi, il y a un nombre de générations incroyables, qui ont vécu des souffrances que je n'ai pas envie de vivre, et qu'il faut de toute façon expliquer à quel point la race ne suffit pas à expliquer le monde. À quel point la race n'est pas une bonne explication pour le monde, et plus spécifiquement dans les cultures créoles, qui sont aussi l'annonce du monde à venir.
Bonjour et merci de nous accompagner ici à Port-au-Prince. Nous sommes dans le studio que RFI a monté tout spécialement pour ces deux heures d'émission que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct de la capitale haïtienne avec des invités, avec notre correspondante Amélie Baron. On va parler politique, société, on va parler de l'avenir d'Haïti. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous, on compte sur vous.
Et oui, en ce dimanche 28 octobre, où que vous soyez à travers le monde, Popourri Show, CUT 89,5 FM, Toronto, célèbre la langue et la culture créole à travers les pays et communautés ayant le créole en partage, en liaison avec le 16e colloque international des études créoles qui se tient en ce moment à l'Université des Seychelles et la deuxième édition du festival Le Mois Créole, célébré sur l'antenne de RFI qui a lieu jusqu'au 13 novembre à Paris. Mon prochain invité est professeur à la City University of New York. Il est fondateur du site web francophone Île en Île, un site libre d'accès et sans but lucratif. Île en Île contient une riche documentation littéraire présentant des centaines d'auteurs francophones, créolophones, des îles, de leur diaspora avec des dossiers approfondis, photos, biographies, entretiens, extraits de textes. Il était des nôtres dimanche dernier pour rendre un hommage à ce grand conteur réunionnais, Daniel Honoré, décédé récemment. Et nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau professeur Thomas Speer, un homme aux multiples facettes et tenaces, n'est-ce pas ? Bonjour professeur.
Bonjour Eric et bonne journée internationale de la langue créole.
Oui, vous savez, quand les gens voient votre nom comme ça défiler dans nos réseaux sociaux, ils disent « Mais ce monsieur, professeur Thomas Speer, Eric, est-ce qu'il est créole ? Il est haïtien ? Il est anglophone ? Il est québécois ? Il est haïtien ? Et pourquoi cette passion ? D'où lui vient cette passion et cet amour pour les cultures francophones et créoles ?
Je suis états-unien de l'Amérique profonde, de langue maternelle anglaise. Je crois qu'en entendant parler de Glisson, Edouard Glisson était mon collègue pendant une quinzaine d'années ici à CUNY. Mm-hmm. Et là, je suis dans le Maelstrom de New York et également ce mélange de cultures. Et je crois que de mes origines différentes de famille, je crois qu'on... On se connaît comme créole aux États-Unis avec nos mythes amérindiennes, des chansons afro-américaines. Cette culture, la culture américaine, est créole.
Mais vous savez, quand on regarde un peu ce que se passe, on ne peut pas parler de l'actualité américaine ces temps-ci. C'est tellement flagrant. Tout d'un coup, on voit des voix différentes, divergentes, qui se lèvent pour prêcher l'unité. C'est terrible ce qui s'est passé dans cette synagogue hier, professeur. Et là, de voir pas seulement la communauté juive, mais aussi des Noirs. J'ai entendu des gens de toutes les nationalités, de toutes tendances politiques, qui se lèvent pour justement prêcher l'amour, l'unité. Il dit qu'on est mieux que ça. On ne peut pas accepter la haine.
Je pense que c'est peut-être la chose importante de connaître l'autre, les gens qui ne nous ressemblent pas dans notre humanité. Et j'ai pas été appelé pour intervenir sur l'actualité, mais je pense que on peut aller plus loin. Je sais, c'est même pas la peine de rentrer là-dedans. C'est toute une discussion. Et c'est pas
pourquoi je parle de ça, parce qu'il y a une communauté riche de personnes venant d'Haïti et des autres îles qui contribuent à la culture américaine, comme ils le font ici à Montréal, à Ottawa et en Ontario aujourd'hui. Ce sont des créoles. Ce sont des gens qui ont vécu des traumatismes à travers le tremblement de terre plus récent, en 2010, vous vous souvenez. Et
j'y étais.
Justement, et pour moi, je trouve ça un cadeau pour le Canada, pour l'Amérique du Nord, d'avoir le peuple créole venir enrichir la culture nord-américaine. Et pour nous, on est chanceux parce qu'il y a tellement de ressemblances entre la langue haïtienne, la langue créole et le français au Canada. Et Dieu sait qu'on a besoin de l'immigration francophone pour enrichir la communauté francophone du Canada. Vous êtes sans doute au courant de cette démographie qui est en train de se perdre, à disperser, parce que on a besoin de l'immigrant, de l'immigration ici au Canada pour l'avenir même de ce peuple. Et parlez-nous un petit peu justement de, bon, vous avez expliqué votre intérêt pour le créole, la communauté francophone, mais vous êtes allé plus loin parce que vous avez décidé de démarrer un site web qui contient des ressources incroyables, une richesse incroyable, pas seulement pour les enseignants, les académiciens, les professeurs, mais aussi pour la communauté en général, parce que n'importe qui à travers le monde peut avoir accès à votre site web Île en Île. Parlez-moi un petit peu justement de la genèse de cette idée, de ce projet.
Je viens tout de suite à cette idée de genèse, mais vous avez lancé dans le débat politique et je pense que cette question encore de l'autre et les langues autres. Et je pense que de plus en plus aux États-Unis, on n'apprend plus des langues étrangères. Et les sociétés francophones, comme les sociétés créolophones, sont en général bilingues ou polyglottes. Et peut-être là, je peux revenir à la question de Île en Île, parce que définir le besoin de promouvoir des cultures de la Caraïbe, de l'océan Indien et du Pacifique, c'est parce qu'il n'y avait pas de matière à la discussion. Et je ne sais pas, c'est quelque chose de limité dans les îles, parce qu'il y a 9 îles, mais il y a la Guyane aussi. La Guyane a quelque chose en commun avec l'histoire, langue, culture de la Martinique et de la Guadeloupe. Mais dans toutes ces sociétés aussi, pourquoi je limite aux îles francophones? Parce que Madagascar, la langue première est le malgache. Voilà. Aux Comores, c'est le comorien. Mais en même temps, c'est une façon d'englober des sociétés qui ont été colonisées à un moment donné par la France, qui ont en commun la langue française, mais aussi une identité insulaire, mais différente selon l'île. Mais c'est une façon de présenter globalement ces littératures qui ont des parentés, mais des différences. La Nouvelle-Calédonie, qui est dans les nouvelles pour la question du référendum sur l'indépendance cette année, c'est une autre culture. Et je pense qu'en parlant des cultures créoles, vous n'allez pas parler de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour moi, c'est une façon d'aborder des questions historiques et des questions d'actualité et des littératures extrêmement fascinantes, riches, dans le théâtre, le roman, la poésie qui nous arrive de ces îles-là. Et pour moi, faire ce site web, c'est une façon de promouvoir ces littératures et de les faire connaître dans un contexte historique. C'est-à-dire, on les voit les plus âgés, les moins âgés, et puis avec des extraits et des entretiens avec des auteurs qui expliquent le contexte et les pulsions de leur imaginaire.
Il y a de l'espoir, parce que quand j'étais petit garçon, j'avais 10 ans, j'étais vraiment émerveillé par les propos de mes professeurs, parce que ces gens me faisaient rêver. Je ne connaissais pas le continent nord-américain, le continent africain. Je vivais dans une île, je pensais que c'était tout, hein. Et vous faites rêver, je pense, vos étudiants, quand on regarde tous les documents, les entrevues, toute cette richesse sur votre site, Île en Île, qui a largué les amarres sous le signe de Saturne le 12 octobre 1998. Et c'était aussi à travers une discussion avec une collègue, sans doute, Sylvie Roussel-Gaucheran.
C'était une personne très impliquée dans les nouvelles technologies à l'époque, dans les années 80, début des années 90, parce qu'en France, on pensait qu'il fallait être anglophone pour être sur Internet. Et j'étais sur Internet au début, la France était encore sur le Minitel, et on avait besoin des outils, et elle a aidé à démystifier la chose. Elle travaillait surtout avec Marie Galante et elle était au Chypre aussi. Elle avait des intérêts pour les îles, mais c'était un peu les débuts de cela. Et puis ils répondent aussi à Christophe Colomb, ces histoires de voir le Nouveau Monde, de voir qu'est-ce qu'il y a comme Hispaniola et de revoir la colonisation, de voir, et tout ça, on peut voir, par exemple, par les deux siècles de littérature haïtienne, et de voir des anciens textes du 19e siècle de l'île Maurice, et il y a une richesse de découvrir, et je pense que mon thème aujourd'hui, créolité, j'ai entendu bien parler d'Edouard Glissant, mon collègue, pour cette question de créolisation, le grand Aimé Césaire aussi, exactement, très répandu dans ces îles, et en parlant de créole dans le sens langue et culture, j'aimerais parler aujourd'hui d'Edouard Monique aussi, de Maurice, parce que je pense que lui aussi, pour la question de ce qu'il a souffert de ce racisme, du métissage, et de le voir comme chantre, de rendre ça beau, je pense que c'est ça une force aussi qui peut être par la langue française, qui peut être par la langue créole, mais c'est tout simplement cette création, cette belle création qui naît de ces croisements et des gens qui ont envie de parler au monde.
Vous avez d'ailleurs Édouard Monique, qui est un compatriote, déjà passé à notre émission au tout début, qui a fait beaucoup pour l'avancement de ce monde créole, métissage, des poèmes très forts. Et c'est très difficile quand on vit dans une île comme l'île Maurice, une île dans l'océan Indien, très proche de l'Afrique. Et il y a toujours cette question chez les jeunes, même aujourd'hui, de nos jours, est-ce que le créole est vraiment mauricien? C'est plus proche des États-Unis, des Antilles ou encore de l'Afrique. Il y a cette crise identitaire parce que c'est une nation multiculturelle, multilingue. Et beaucoup de ces cultures ont gardé leur langue traditionnelle et leur religion aussi, très attachée
et
à ces communautés.
Et leur xénophobie, oui, et leur clanisme. Voilà. Et on voit en tout petit en Maurice ce qui se passe au niveau mondial, dans les gens qui, oui, c'est-à-dire vivre ensemble ou se déchirer pour des questions ethniques ou religieuses.
On se sent étouffé. Alors rapidement, je vais vous faire entendre et découvrir aussi aux auditeurs qui nous écoutent d'un professeur qui est à l'université de l'île Maurice, qui a lancé le premier dictionnaire mauricien. Il était à l'antenne de Radio France Internationale. Il s'appelle Arnaud Carpouran. Peut-être vous le connaissez. Enfin, ce premier dictionnaire créole a eu beaucoup d'échos, mais pas nécessairement des échos très très positifs, parce que les gens ont justement questionné, mais comment peut-on écrire le créole? Les gens n'arrivent pas à s'entendre sur la grammaire, sur la construction, l'orthographe. On l'écoute brièvement.
Des gens dont les parents sont issus de plus différents horizons culturels. Certains viennent de l'Inde, d'autres de Chine, d'autres viennent de l'Inde, mais d'origine musulmane, d'autres d'origine tamoul, télégou. Et donc, ça a donné comme conséquence la présence de pas mal de langues sur le sol mauricien, à côté du français et de l'anglais, qui sont les deux langues des deux anciennes puissances coloniales. Mais il s'est créé sur le sol mauricien une langue qu'on appelle le créole, et il n'y avait pas de place pour cette langue ni dans le système primaire ni ailleurs. Et déjà le créole a pu se frayer un chemin en primaire comme une langue optionnelle, c'est-à-dire il ne fallait absolument pas donner l'impression qu'on allait forcer cette langue et qu'on avait pris l'habitude tout au long de notre histoire à oublier, à mépriser d'un seul coup, disant on allait forcer les élèves à apprendre.
Mais alors, une question simple, Arnaud Carpouran, est-ce que aujourd'hui le créole est une première langue scolaire ou bien ça reste, au départ en tout cas, une langue optionnelle pour des enfants qui sont scolarisés, soit en français, soit en anglais, soit peut-être dans d'autres langues?
Ça reste une langue optionnelle pour le moment parce que c'était le statut le plus facile.
Et oui, c'est très intéressant. Vos réactions, professeur ?
Bah, de toute façon, chaque île a ses débats pour leur langue créole. Et comme on sait qu'il y a plusieurs orthographes en, à La Réunion, il y a Dave Verasamy qui travaille avec autres orthographes à Maurice. Du moins en Haïti, oui, je sens doute que c'est le pays, c'est le plus, je crois qu'il y a 1 million de créolophones haïtiens aux États-Unis, sans parler de l'île d'Haïti. C'est, du moins depuis 40 ans, ils ont une orthographe très claire et phonétique. Et je pense, peut-être pour revenir à cette question de synagogue au début, je pense à une collègue, une bonne amie qui est en Israël, et une femme très fascinée par la langue créole. Et pour elle, l'hébreu moderne est une langue créole, parce que, à partir de cette langue ancienne, ils ont créé une langue moderne avec les mélanges des gens qui venaient de toutes sortes de langues, et peu importait pour beaucoup de personnes la précision de l'orthographe ou autre. Et je pense qu'on voit ça dans, quand vous voyez des vieux textes de Franck Etienne par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire l'orthographe change, mais c'est quand même la langue. Et maintenant, quand on a tellement en vidéo, quand on a des musiques, c'est à des moments donnés, ce sont des petites questions pointilleuses de parler de l'orthographe. Le plus important, c'est d'encourager les langues et la pluralité des langues et la création et de l'expression pour qu'on puisse se défendre et se dire.
Oui. Moi, je pense que être créole, c'est vraiment vivre sur une planète et de voir le monde d'une façon un peu différente. Et on... Je pense que être créole, on peut être créole, francophone, africain, anglophone, américain. C'est une richesse avant tout. On ne se sent pas diminué de nulle part, n'est-ce pas?
Mais c'est ça. C'est, normalement, c'est ça, de connaître l'autre. Et on finit par comprendre des choses de nous-mêmes.
Voilà.
C'est ça aussi d'apprendre d'autres langues, de parler de l'amour ou de ce morceau sur la lèvre supérieure entre le nez et la bouche, la pince du nez, et on a un mot pour ça en esquimau, mais on l'a pas en langue anglaise ou française. C'est-à-dire, il nous manque des choses et donc on devrait aller vers l'autre.
Ouais. Alors, professeur Thomas Spears, vous avez en ce moment une campagne de levée de fonds pour justement garder en vie ces ressources. Ileenile.org, madame, monsieur, allez sur www.ile-en-ile.org. C'est une façon pour vous d'amasser des fonds pour continuer à gérer cette base de données qui est vraiment très intéressante et très importante pour vous, mais aussi pour la communauté, les communautés francophones et créolophones du monde.
Merci beaucoup, Eric. Et puis, je remercie le public qui écoute, qui découvre le site. Et puis, si les gens peuvent donner 20 euros, 10 euros, l'idée maintenant, c'est que je puisse engager quelqu'un à temps partiel parce que j'ai un temps de rédaction énorme pour ce site qui n'est pas
ma première occupation.
Écoutez, et ça fait 20 ans et j'ai besoin d'un peu de soutien.
Mais vous savez, je pourrais aller faire du bénévolat chez vous. Vous avez qu'à m'inviter et je serai là demain matin. Hein. Pas de problème. Alors, professeur Thomas Pierce, c'est tout un plaisir de vous avoir.
À tout le monde.
Et on garde le contact. On garde le contact et on se revoit très prochainement. Au revoir.
Les mots à l'école, pour moi pendant les pensées. Les mots cause mon créole, professeur tape ma batte. Et dans ma langue la casse, à la mot par mon maman. Maman dit à moi comme ça, abisez moi pour un tracas. Non maman, non maman, mais maman un petit créole. La papa à ma derrière. Papa créole, maman créole, mais maman bise créole. Moi je dis dans le disait foule, pas capable d'un petit canard. Puis spinez les coups, pas qu'un énorme les rois. Et nous dans nos nations, ça mène nous finir là. Et mon Dieu nous comme ça, créole nation volée. Dire ce qui content, nous nous comme nous parler.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Style.
Stylishly hip and deeply exotic, presenting award-winning Turkish-Canadian group Minor Empire, live in concert in support of their new album, Uprooted, November 3rd at Burdock in Toronto. Armed with dreamy vocals and pulsating grooves, don't miss Turkish-Canadian group Minor Empire, November 3rd at Burdock. Tickets and info at burdockto.com and minorempire.net.
Wednesday, October 31st, it's the 21st annual Halloween on Church, Canada's largest Halloween block party in the heart of the Church Wellesley Village. So, dress to impress, put on your best Halloween drag, and join thousands of Halloween revelers for your chance to win giveaways from local businesses. The party runs from 7 p.m. until 11, and CIUT will be broadcasting live on location. Canada's largest Halloween block party, October 31st, 7 p.m., in the heart of the Church Wellesley Village. Halloween on Church.
CIUT 89.5, Toronto.
Jérôme Bastion.
Au sommaire de cette édition du dimanche 28 octobre 2018, réunis à Istanbul sur la situation en Syrie, les dirigeants turcs, russes, allemands et français conviennent du maintien du cessez-le-feu à Idlib et prônent une solution politique. C'est sans doute la dernière fois que la France et plusieurs pays d'Europe ont procédé cette nuit même au passage à l'heure d'hiver. Le Maroc, lui, a d'ores et déjà abandonné la mesure sans crier gare. Et puis rendez-vous électoral à haut risque ce dimanche avec un scrutin qui risque d'être fatal à la grande coalition dans le Land de Hesse, jusque-là gouverné par un proche d'Angela Merkel, de plus en plus fragilisé. C'est un sommet au format inédit qui, de l'avis des participants, aurait toute son utilité, mais le sommet quadripartite sur la Syrie, organisé à Istanbul par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a invité pour l'occasion Vladimir Poutine, Angela Merkel et Emmanuel Macron, n'a guère fait bouger les lignes. Le seul véritable acquis devrait résider dans la consolidation du cessez-le-feu pour la province d'Idlib, qui abrite 3 millions de civils et quelques milliers de combattants djihadiste. C'est, rappelons-le, la dernière province qui n'a pas été reprise par les forces gouvernementales dans ce pays. En fait, les positions des uns et des autres au cours de ce sommet, positions souvent incompatibles, n'ont pas vraiment bougé, Anissa El Jabri.
Pour les Européens, les terroristes, ce sont les hommes de l'EI. Pour Recep Tayyip Erdogan, il faut ajouter les Kurdes, le président turc qui menace.
La Turquie n'autorisera pas le fait que des organisations terroristes se renforcent, ni à ses frontières, ni dans une quelconque région de Syrie. Nous n'accepterons pas d'ouvrir de nouveaux fronts sur le terrain sous prétexte de lutter contre le terrorisme.
La Russie, elle attend des investissements des Européens pour la reconstruction quand Emmanuel Macron veut avant tout qu'elle fasse pression sur Damas pour un dialogue politique.
Il n'y aura pas...
Bonjour et merci de nous accompagner ici à Port-au-Prince. Nous sommes dans le studio que RFI a monté tout spécialement pour ces deux heures d'émission que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct de la capitale haïtienne avec des invités, avec notre correspondante Amélie Baron. On va parler politique, société, on va parler de l'avenir d'Haïti. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. On compte sur vous.
Le club RFI, Éric Amiens.
Bonsoir, bienvenue au club de loin, l'émission la plus proche. Ce samedi, nous restons dans la capitale française avec le club RFI Paris. Au sommaire, nous aurons l'initiative du club, ou plutôt les initiatives. Le club a participé au mois de la langue créole au ministère de l'Outre-mer à Paris. Le créole qui est à l'honneur chaque année, au mois d'octobre, toujours dans le cadre de la langue et culture créole. Le club a aussi participé à la semaine de la langue maternelle à l'UNESCO. Les amis vont nous dire un peu plus. Le cousin Babé Christopher, c'est un jeune artiste plasticien mauricien. Souvenez-vous, il a récemment participé à une rencontre en Haïti sur l'art et la créolité, qui est-il vraiment? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. Nous aurons bien évidemment le proverbe du club et puis la musique. Bidimbo, bidimbo, nous allons nous amuser avec le club RFI. Bam.
Et oui, madame, monsieur, ce dimanche 28 octobre 2018, Popourri Show, CUTFM célèbre la langue et la culture créole à travers les pays et les communautés ayant le créole en partage, en liaison cette année avec le 16e colloque international des études créoles qui se tient en ce moment même à l'université des Seychelles et la deuxième édition du festival Le Mois Créole qui a lieu jusqu'au 13 novembre à Paris grâce à RFI. On vous envoie des sons, des vibrations, mais aussi de l'ambiance créole en direct de Paris, France. Dans un instant, nous allons passer à notre troisième invité, je pense, ou quatrième invité, je ne sais pas. Est-ce que le créole s'exporte avec les nombreuses migrations de Haïtiens vers les Antilles, les Amériques, l'Europe ? On rencontre un peu partout dans le monde des entités diasporiques haïtiennes. Aux États-Unis, le créole haïtien a bénéficié depuis le début des années 2000 d'une reconnaissance officielle dans l'État de la Floride, après l'anglais et l'espagnol. Dans le comté de Miami, il est enseigné dans les écoles publiques où il y a des apprenants d'origine haïtienne. Et oui, une école primaire d'Edison Little River a même été rebaptisé du nom de Toussaint Louverture. Le Little Haiti Cultural Center est une institution qui fait la promotion pour la langue et la culture haïtienne. Qu'en est-il de Montréal, de l'Ontario, de Toronto? Nous avons le plaisir d'accueillir le consul honoraire d'Haïti, grand philanthrope et fondateur de l'organisme Perspective Entraide Humanitaire. Et il a dit, je cite, « Il faut continuer la lutte en trouvant des solutions haïtiennes aux défis haïtiens, mais on ne peut pas mener la lutte seul. » Qui a dit ça? C'est notre invité. Docteur Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti. Bonjour, monsieur le consul.
Oui, c'est bonjour, comme ça qu'on doit vous... Kader, oui. Comment allez-vous?
Vous
bonjour.
Êtes médecin.
Bonjour, tout le monde qui a écouté.
Oui,
audience pour pourri. Bah, c'est moi très honoré que nous invitions dans le programme. Non. L'un des problèmes qui se passe, c'est que on discute du créole, mais on en discute en français, on en discute en anglais. Oui. Parfois, c'est pour nous discuter créole là, en créole.
Et vous savez, docteur, pourquoi? Parce que je veux que le maximum d'auditeurs, et surtout d'auditeurs francophones et francophiles, arrivent à bien comprendre et à saisir les richesses, les défis, les préoccupations du monde créole. Parce que il y a encore malheureusement un écart qui sépare les créoles et les francophones et les francophiles et les anglophones. Les gens connaissent mal. Souvent, on me dit « Ah, tu viens de Jamaïque? Tu viens de tel pays ?» Mais jamais ils vont penser que vous venez d'Haïti ou encore que vous venez de l'île Maurice, de l'île de la Réunion ou de la Guadeloupe ou de Martinique. Pourquoi ?
Absolument. C'est l'un des aspects du problème. C'est que parfois les gens se définissent le créole comme une sous-langue, comme un patois. Effectivement, le créole, c'est une langue dynamique. Et effectivement, c'est des opportunités, comme la journée créole, qui nous permettent de mettre en lumière la vitalité de la langue et aussi de créer l'opportunité de maintenir cette vitalité. Parce que sans cette prise de conscience, eh bien, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de facettes de la culture créole qui sont menacées d'extinction. Donc, il y a toute une lutte à maintenir. et aussi toute une prise de conscience, tout un travail à faire pour maintenir ce phénomène culturel, cette vitalité, ce dynamisme.
Il faut être fier quand on est créole, parce que, vous savez, dans certaines îles, malheureusement, je ne sais pas en Haïti ou ailleurs, mais je sais qu'à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, parce qu'il y a une présence française qui était là même dans les années 50-60, les familles et les institutions forçaient les jeunes pour bien être vu en public et être accepté, avoir un bon boulot, il fallait absolument bien parler le français. Et le créole, c'était à la maison où les gens avaient honte, je dis bien les gens avaient honte à l'époque de parler créole, de s'identifier comme créole.
Bon, c'est ce qui se passe maintenant. Il y a un phénomène nouveau. Il y a cette prise en charge de notre identité collective. On trouve ça, par exemple, dans des milieux comme Montréal, où les jeunes, parfois des jeunes qui sont nés au Canada, qui sont canadiens, mais ils revendiquent la culture créole. Ils essaient de s'exprimer en créole avec beaucoup de fierté, avec ce sens que c'est là leur origine, et ils n'osent pas, par menace de peut-être d'extinction ou de perte de cette culture, de négliger cet aspect de leur identité. Je pense que c'est un phénomène très important, ou bien c'est un besoin pour nous, créolophones, de porter en exergue notre culture, notre bagage culturel commun, et rappeler aux gens que, effectivement, nous sommes fiers. Nous sommes fiers de l'endroit dont nous venons, et nous sommes fiers aussi de notre destinée commune, notre destinée de gens d'origine créolophone et qui sont disposés à maintenir cette origine et à lui donner une nouvelle vie, un nouveau souffle.
Et Dieu sait que, pour parler d'Haïti, mais on pourrait parler des autres îles, cette langue est riche, mais aussi il y a la musique, il y a la gastronomie, il y a les arts, il y a une littérature des Antilles et surtout haïtienne, encore méconnue malheureusement dans nos milieux universitaire. Il y a quelques professeurs, je sais, je les connais, je les rencontre, c'est toujours les mêmes, mais ils sont isolés dans ce monde, cet océan, qui, je comprends qu'il faut promouvoir les cultures, les auteurs franco-ontariens, j'ai rien contre, mais il faut aussi élargir nos espaces littéraires, culturels, et mieux apprécier les autres cultures, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs haïtiens.
Absolument.
Des artistes, les peintures haïtiennes, mais c'est vraiment... Les gens méconnaissent cette richesse culturelle que possède Haïti.
Je pense que c'est notre tâche à nous d'éduquer le public en général et aussi éduquer notre diaspora. Mmh. Éduquer tout le monde sur nos richesses culturelles. Il y a aussi un aspect de la culture créole. À cet aspect, nous devons accorder beaucoup plus d'importance. On parle de musique, on parle de littérature, mais on doit aussi parler de la culture orale, de l'oralité. Et par oralité, j'entends les contes, les légendes, les proverbes. Ce sont des aspects de notre culture qui sont menacés de disparition si nous ne trouvons pas une façon de les collecter, de les maintenir, parce que, comme vous savez, la culture écrite est appelée à perdurer, tandis que la culture orale, s'il n'y a pas des mouvements spécifiques pour maintenir cette culture, c'est-à-dire les contes qui expriment nos espoirs, nos, notre imaginaire, notre système de valeurs, les légendes, les proverbes, en fait, qui sont comme une collection de slogans qui reflètent notre vision du monde.
Alors, donc, en parlant, ça, oui. Et ça, c'est très important parce que les gens qui ont vécu dans les îles savent très bien leur grand-mère, parce que les parents travaillaient, et donc ils vivaient avec leur grand-mère, leur grand-père, et puis les grands-parents prenaient soin des petits-enfants, et il y avait des berceuses, hein, il y avait des chansonnettes, et il y avait des proverbes, et on vivait dans un monde vraiment imaginaire, comme vous avez si bien dit, et on pensait que c'était vrai, hein, parce que c'est à travers les contes, à travers ces histoires que nos ancêtres ont pu combattre, relever les défis et combattre les oppressions qui vivaient à l'époque.
Justement. Donc, tous ces aspects-là, nous devons essayer de d'informer le public.
Alors, nous avons justement...
au sujet de ces aspects.
Oui.
Et nous devons les maintenir. Nous devons maintenir la dignité de nos voix.
Alors, nous avons justement un monsieur qui a entendu votre appel. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui a décidé, au pied levé, de vous envoyer quelques proverbes, quelques citations les plus célèbres créoles. On l'écoute.
Ça ou planter, c'est ça ou qu'a récolter. Ça ou planter, c'est ça ou qu'a récolter. Tu ne peux que récolter les fruits de ta semence. Ne pas plaindre celui qui tire la patte sur ses vieux jours. Le bonheur se construit toute la vie. Jean ou Angé Kabanao, c'est Jean ou qu'a domi. Jean ou Angé Kabanao, c'est Jean ou qu'a domi. Tu ne peux pas planter des patates et récolter des mangues. La course se gagne à l'entraînement. Toutes les actions de ta vie détermineront la fin de celle-ci. L'ayo pas mandé au haïen, fémeo. L'ayo pas mandé au haïen, fémeo. Évitez de s'immiscer dans les affaires d'autrui. Le silence prévient les ennuis. Toute immixtion sans autorisation conduit au conflit.
Eh oui, qu'en dites-vous?
Voilà, ça c'est belle bagaille. Effectivement, ces bagailles saillots, ce sont ces proverbes-là, ouais, qui sont comme des petits rappels, mm-hmm, de notre sagesse populaire. Cette sagesse qui nous a guidés dès notre enfance et peut-être à travers les générations, il faut le dire. Donc, et nous ne devons pas perdre ces aspects-là.
Alors, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent en ce moment. Ils nous posent souvent des questions. Pourquoi et que faites-vous? Quel est votre secret pour, tout en vivant au Canada pendant très très longtemps, vous travaillez, vous faites beaucoup de choses très intéressantes et en plus vous aidez les personnes en difficulté en Haïti, on l'a vu avec le tremblement de terre, de temps en temps vous faites des navettes pour justement aider les gens les plus démunis en Haïti. Comment faites-vous, docteur Pierre, pour garder les traditions, la culture haïtienne et cet état d'âme, parce qu'il faut bien le dire, être créole, c'est aussi avoir un état d'âme pendant toutes ces années et ne pas perdre justement en vue votre culture propre, votre culture maternelle.
Je pense que tout d'abord, on dit que si on veut que quelqu'un accomplisse quelque chose, il faut trouver un individu qui est occupé. En d'autres termes, la personne qui est tellement occupée qu'il n'a pas de temps, eh bien, elle va toujours trouver du temps pour faire quelque chose. C'est comme quoi il y a des gens qui arrivent à trouver une 25e heure dans la journée. Alors, je ne veux pas me catégoriser dans ce groupe, mais au moins, j'ai cette vision-là, cette vision de bien remplir mon horaire, de trouver des choses à faire. Et aussi, j'ai une vision plutôt éclectique. Je ne suis pas seulement rivé sur la culture haïtienne. J'ai ce goût-là, ce goût d'apprécier toutes les cultures, naturellement avec la prédominance, une place encore plus importante à ma culture d'origine. Mais j'aime toutes les cultures, j'ai un goût universel. J'aime les arts de tous les pays. J'essaie dans la mesure du possible de me familiariser avec les autres dimensions de l'humain. Ça me met en tête l'idée de ce philosophe qui a dit « Je suis homme et rien d'humain ne doit m'être étranger. » Donc, pendant que je m'ouvre à l'humain en général, je maintiens encore ce contact. Je reste encore enraciné dans l'espace créole, dans l'espace haïtien. C'est comme l'arbre qui est enraciné quelque part, mais dont les branches s'étendent bien au-delà du tronc. Et pour moi, c'est la figure la plus fidèle, l'image la plus fidèle de l'idéal que je me taille.
Notre invité, madame, monsieur, aujourd'hui est le docteur Éric Pierre à Toronto. Il est consul honoraire d'Haïti et fondateur de l'organisme Perspective Entraide Humanitaire. Et justement, depuis le début de l'été, on a vu il y a plus de 10 000 personnes, dont une majorité d'Haïtiens qui ont traversé la frontière canadienne de manière irrégulière pour certains, pour demander le statut de réfugié. En voyant ces images, surtout dans la région du Québec où ça a joué beaucoup dans certains médias, on a raconté toutes sortes d'histoires. Et vous, en tant que consul, en tant que diplomate, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez vu des gens être refoulés ou encore avoir cette stigmatisation, encore une fois, chez les Haïtiens? Quelle a été votre réaction?
Bon, je dois étendre un petit peu pour dire que le phénomène des réfugiés n'est pas vraiment... Naturellement, vous le savez très bien, mais je dois quand même le rappeler que ce n'est pas un phénomène typiquement haïtien. Mm-hmm. C'est un phénomène universel. Quand on regarde les vagues de réfugiés, eh bien, ces vagues humaines viennent d'un peu partout, mm-hmm. orientées et vers certains centres d'accueil comme au Mexique, aux États-Unis. Et même ce matin, je lisais des articles sur le Kenya, la Tanzanie, le Liban, qui reçoivent des réfugiés. Le phénomène des réfugiés, c'est un phénomène, naturellement, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais il y a une crise universelle. Je ne veux pas dire que ce soit une crise économique parce que ça va mettre des arguments dans la bouche de ceux qui prétendent que nos réfugiés ne sont que des réfugiés économiques. Effectivement, ce sont des gens pour qui leur droit à la vie est menacé. Mmh. Quand on regarde la situation en Haïti, où on a un taux d'inflation de 15%, on a presque les deux tiers de la population qui ne travaille pas. Ça, c'est seulement dans le cas d'Haïti. Un salaire journalier de 5 dollars pour 8 heures de travail. 5 dollars américains pour 8 heures de travail. On peut comprendre que les gens pensent que c'est à peu près comme leur droit à la vie qui est menacé. Et ça, c'est seulement dans le cas d'Haïti. On voit maintenant les vagues qui se déferlent de Honduras, du Guatemala, d'un peu partout à travers le monde. Donc, il faut questionner le système économique mondial. Il faut questionner comment, de date récente, les nombres de milliardaires sont en train d'augmenter.
Mais...
Tandis que la misère généralisée, le désespoir de nos populations, le niveau de criminalité, l'instabilité politique, les manifestations politiques, c'est comme des expressions de désespoir total.
Oui, et là, on pourrait un jour, d'ailleurs, on va garder contact, hein, j'aimerais beaucoup vous recevoir pour éclairer les auditeurs sur les vrais enjeux, parce qu'il y a tellement de médias, malheureusement, qui racontent toutes sortes d'histoires, et je pense qu'ici, c'est un vrai laboratoire d'idées, un brassage d'idées, et on a cette liberté d'expression qu'il faut chérir, parce que c'est vraiment très important de pouvoir partager nos idées, nos opinions librement. Et ici, on a cette chance, ce cadeau, n'est-ce pas? Et donc, on continuera. Mais il faut rappeler aux gens pour terminer, parce que là, on me dit qu'il y a d'autres personnes qui nous attendent à Gatineau, à Montréal, à Paris, à l'île Maurice. Et il faut rappeler aux gens que la communauté haïtienne, il y a beaucoup d'Haïtiens qui ont contribué à la culture, à l'éducation, le domaine de l'universitaire, par exemple, de la médecine au Québec, parce qu'il y a une relation quand même assez élargie et très profonde, hein, entre Haïti et la province du Québec, et surtout Montréal. C'est une façon aussi, dans cette journée internationale de la langue et de la culture créole, de célébrer la contribution de ces créoles, et en particulier des Haïtiens, qui ont apporté leur charisme ou encore leur expérience, leur expertise. Parce qu'il ne faut pas toujours dire que tous les immigrants qui viennent ici, ce sont des réfugiés ou encore ce sont des gens qui ne sont pas formés ou qui ne connaissent pas le système. Souvent, il y a ce débat, on le sait, on dit qu'on n'est pas prêt de recevoir tant d'immigrants, on n'a pas besoin, peut-être il faudrait fermer les frontières en certains moments, mais il faut rappeler aux gens que la communauté haïtienne a beaucoup et continue, même au niveau politique aujourd'hui, hein, il y a 3 élus hein, au Québec, aux dernières élections du Québec, qui sont d'origine haïtienne.
Et aussi, il faut rappeler, étant donné qu'on parle toujours du Québec, que nous avons une communauté à Toronto qui est une communauté vibrante et qui est en train de faire des contributions énormes à la société torontoise, à la société ontarienne. Nous avons des Haïtiens qui participent maintenant à tous les niveaux de la société torontoise. Nous avons eu des candidats à la députation, nous avons des conseillers pédagogiques, nous avons des gens qui, aussi dans les autres niveaux,
exactement,
qui s'occupent des vieillards canadiens. Nous avons énormément d'enseignants qui sont en train de former les générations futures.
Exactement. Et au niveau culturel,
donc, oui. Nous portons une contribution énorme et nous sommes en train de marquer nos points aussi dans la société, dans notre province, dans notre ville ou bien dans le Grand Toronto.
Merci infiniment, infiniment, Dr. Éric Pierre, consul honoraire d'Haïti et fondateur de Perspective Entraide Humanitaire. Pour terminer, proverbe créole, quand tout va bien, on peut compter sur les autres. Quand tout va mal, on ne peut compter que sur sa famille. Ça, c'est un proverbe créole.
Merci beaucoup, Éric. Moi, j'apprécie tout le temps qu'on me joue bien.
Passez une très bonne journée, créole. On continue la célébration. On se reparle très prochainement. Au revoir.
Merci. Bonjour.
Vous êtes Zouk. Vous êtes Zouk et uniquement Zouk. Écoutez Tropic Zouk, la web radio de Tropic FM. Tropic Zouk pour les zoukers nés.
Écoutez cette web radio sur notre site www.tropicfm.com, sur iPhone, iPad et Android, en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Hi, this is Ken Stauer, station manager for CIUT-FM. I'd like to remind our listeners that the Sound of Your City membership drive campaign is fast approaching. The on-air drive will take place from November the 12th through to the 18th. We are looking forward to your financial support. If you love what you hear and if you value the creative programming that is offered on CIUT-FM each and every day, then I would encourage you to make your donation today. You may do so at our secure server, CIUT.FM. Just click on the Donate Now button. All donors will be eligible for the exciting grand prize draw of return airfare for two to Iceland with hotel accommodation included and more. So please help us make this membership drive campaign a success. You can help us do so by donating in advance right now at CIUT.FM. CIUT-FM 89.5, bringing you the sound of your city every day.
CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
ONFR, c'est la production web télé du groupe Média TFO dédiée à l'actualité politique de l'Ontario.
Effectivement, il y a des problèmes de transport majeurs dans la partie nord de la province.
C'est la seule production francophone d'information et d'affaires publiques dans la province qui suive la nouvelle au-delà du cycle habituel des 24 heures.
Le droit de parole, c'est un droit acquis.
ONFR, c'est d'abord une présence continue sur Twitter. L'information à l'état brut.
Comment ces changements-là sont-ils accueillis dans le Nord?
Les nouvelles de dernière heure. Et une communauté d'abonnés de plus en plus nombreuse qui continue à croître de 10 à 15% par mois.
Restez branchés sur notre compte Twitter pour tout savoir.
ONFR, c'est aussi un site web d'information, une référence quotidienne avec des reportages approfondis.
Il y a bien des questions que vous demandez, et je pense que c'est des questions que le gouvernement a besoin de répondre.
Des analyses qui font réfléchir, du contenu exclusif.
Et ça, c'est du jamais vu.
Des angles différents de traitement de la nouvelle.
Une situation sans précédent en Ontario.
ONFR, c'est enfin une émission hebdomadaire à la télé et sur le web. Un temps d'analyse et de réflexion pour comprendre l'essentiel de l'actualité politique de l'Ontario. Une tribune crédible où les enjeux les plus marquants à Queen's Park et dans la francophonie ontarienne sont expliqués, décortiqués par une équipe de journalistes chevronnés.
Est-ce que le budget a répondu à ces attentes-là?
Et par le biais d'entrevues et de reportages au cœur de l'action.
Nous abordons tous ces enjeux aujourd'hui avec le ministre de l'Énergie, Bob Chiarelli, qui nous accorde une entrevue exclusive.
ONFR informe et élève le débat sur la scène politique en Ontario.
Bienvenue à ONFR.
Et oui, la rentrée 2018-2019 est déjà entamée et bien entamée ici à l'équipe de CUT 89,5 FM, 32 ans déjà. Potpourri Show, cette émission qui vous fait rêver, vous fait découvrir les richesses de toutes les cultures. Et ses partenaires vous invitent à d'autres aventures, des escapades, des échappées, des expériences inédites entre culture et francophone. Et ne ratez pas, madame, monsieur, le renouvellement de votre adhésion. Ou encore participer en grand nombre à notre levée de fonds qui démarre dès le 4 novembre ici à la radio. On remercie à l'avance ceux et celles qui nous ont envoyé déjà leur chèque. Vous pouvez aller sur le site www.cut.fm ou encore envoyez-nous un message à www.popourri.cut.fm. Potpourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Jacob, ça va bien? Ah, vous nous faites plaisir. Nous pas même en vivati. Levez la main, 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 levez la main. Pas bébé, pas bébé, pas bébé, pas bébé. Ah, 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 ah. Ah, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes contents? Joli, ça c'est cassa. Number one. Ciao. C'est Marie.
En ce dimanche 28 octobre, nous célébrons en grande pompe Journée internationale de la langue et de la culture française, fréole plutôt, voilà, avec des invités d'un bout à l'autre de la planète. Et on remercie bien sûr tous nos invités. Grâce à eux, on vous fait rêver. Bonne fête à tous les créoles du monde! Et oui, nous avons reçu beaucoup de réactions. J'ai pas le temps malheureusement pour tout lire parce que nous avons encore quelques invités. Il faut le faire vite. Mais on voulait absolument dire un petit bonjour, un petit coucou. Un petit bonjour, comme on dit dans les îles. Bonjour madame, bonjour monsieur. Miamaou, hein, je vous aime. Alors, notre prochaine invitée, une grande passion. Elle est très déterminée. Et elle est à la tête d'une équipe, d'un organisme, d'une entreprise, Civil Communication. Elle a remporté même le prix, l'événement Go Pitch de vente 60 secondes, catégorie prix au féminin, en collaboration avec Conditions Féminines Canada, gouvernement du Canada. L'année dernière, elle est directrice générale de Civil Communication et elle s'appelle Peggy Civil. Elle fait des choses très intéressantes, un peu vers l'est de l'Ontario, Ottawa et Gatineau. On voulait absolument lui dire bonjour parce qu'elle fait des choses très intéressantes. Entre autres, elle est responsable de ce Festival des cultures du monde à Gatineau. Elle est responsable des communications. Bonjour Civil. Bonjour Peggy Civil.
Ça va? Bonjour, monsieur Eric Kader. Comment ça va?
Ben, ça va très bien. On vous souhaite une très belle journée créole. Vous n'avez que 60 secondes, me dit-on, de l'autre côté, pour passer vos vœux à des auditeurs, des créoles, des francophones, des francophiles à travers le monde qui vous écoutent sur le net. Le micro est à vous.
Alors, ces vœux pour cette célébration de la Journée internationale de la langue et de la culture créole. Écoutez, trois étapes que cette langue m'a vraiment imprégnée. Je souhaite que dans votre enfance, cette langue vous a apporté de l'amour de cette langue maternelle. Donc, je me rappelle lorsque ma mère me disait « moi j'aime ». Donc, je t'aime dans cette enfance. Lorsqu'on parle aussi de l'adolescence, donc je vous souhaite tous ceux qui nous écoutent, les adolescents qui nous écoutent aujourd'hui, cette langue, elle nous permet non seulement pour nos parents de nous féliciter, mais elle nous permet aussi de réprimander. Donc, je me rappelle lorsque j'étais jeune, lorsque ma mère utilisait ce créole, c'était soit pour me féliciter ou me réprimander. Donc, j'espère que ces jeunes vont s'imprégner de cette langue créole et qu'ils vont être fiers de la parler, fiers de la partager avec les gens qui les entourent. Et lorsqu'on passe à ce monde d'adultes, donc je pense à ma mère qui est le poteau mitant de notre famille, donc la femme forte de notre famille qui nous soutient. Je vous souhaite qu'elle soit touchée d'émotions, de sincérité. C'est une langue qui parle du cœur, qui nous permet de connecter. Donc avec ces trois générations, je vous souhaite que cette langue créole non seulement vous imprègne, et à tous ceux qui aimeraient apprendre cette langue créole, je vous invite dans notre culture pour mieux apprendre à nous connaître et de vivre ensemble.
Et moi je vous offre proverbe créole, comme nous a dit le docteur Éric Pierre, il n'y a pas assez de proverbes créoles à la radio. La mer ne se vante pas d'être salé. Je vous remercie de
Merci.
La part de toute l'équipe à Peggy Civil. On se reparle très prochainement et bonne chance dans vos activités.
Merci.
Au revoir.
Bye bye.
Avec son ingrédient spécial, laisse-moi dévorer l'appétit. Même la femme à moi manger jusqu'à moi rassasier. Oui, mon corps dans sa goutte. Avec son ingrédient spécial, laisse-moi dévorer l'appétit. Même la pangue à moi manger jusqu'à moi rassasier.
Monsieur, nous continuons notre petit voyage intercontinental lors du recensement de 2006. 3475 personnes immigrées natives de l'île Maurice ont été dénombrées au Québec. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Hein? Et parmi ces personnes, 29,2% se sont établies au pays avant 1981. Et plus d'un cinquième de cette population est arrivée au cours de chacune des deux décennies. Eh oui, mais ont-ils préservé le patrimoine et les traditions de leur terre natale, l'île Maurice? On vient d'entendre justement le goût créole, petit Sega. Et ma prochaine invitée justement contribue à sa façon à faire rayonner la culture créole des îles de l'océan Indien. Réunion, Seychelles, l'île Maurice, Rodrigue. Et elle est productrice, réalisatrice, animatrice du magazine Des Mascareignes à Radio Centre-Ville 102,3 FM, Montréal. Bonjour Joyce Viramoutou.
Bonjour.
Alors vous avez 60 secondes parce que nous avons une professeure qui nous attend pour faire la conclusion de ces deux heures de voyage. Je ne sais pas si vous nous avez écouté sur Internet.
Oui, absolument.
Quel est justement votre point de vue, votre opinion dans cette journée internationale? En plus, ça tombe bien, c'est un dimanche.
Oui, donc en 60 secondes, une petite analyse de mon côté. Qu'est-ce que le créole? Donc, le créole, c'est une langue métissée. Il faut pas oublier ses racines qui viennent de la créole, colonisation. Hein? Donc, c'est une source de souffrance pour les ancêtres, mais ça a évolué. Donc, le monde présentement vit une prise de conscience. Les nouvelles générations X, Y ont beaucoup d'informations grâce à la technologie sur Internet. On peut avoir plus beaucoup d'informations et ils ont une soif de connaissance, une soif de connaître leurs racines. Donc, c'est un retour aux sources et ce que je vois présentement avec les nouvelles générations, c'est qu'ils veulent, apprendre le créole, ils veulent échanger plus en créole. Donc, des dictionnaires et des cours, comme on a parlé, des cours qui vont peut-être se donner à l'île Maurice. Hein? Donc, les cours de créole mauricien. Mmh.
Est-ce que dans la région de Montréal et du Québec, je sais qu'à chaque année, il y a des festivals de musique, même un festival de cinéma africain et créole. Et il y a un public, je dirais, il y a même des restaurants, un restaurant réunionnais, je ne sais pas si ça existe encore à Montréal. Mais est-ce que, en général, les médias, le public québécois en général, est-ce qu'ils ont une curiosité? Et est-ce qu'il y a des affinités entre créoles, que ce soit de la Réunion, des Seychelles, de Madagascar? Bon, Madagascar, c'est pas nécessairement créole, mais enfin, de l'île Maurice. Est-ce qu'il y a des affinités entre les Québécois et les créoles qui vivent sur votre territoire?
Absolument. Les Québécois sont très intéressés à venir découvrir la culture créole, que ce soit en gastronomie, la musique, les activités communautaires comme le Diwali qui s'en vient bientôt. Donc, c'est une culture très riche au niveau des mascareignes parce qu'on a les ancêtres hindous, les ancêtres chinois qui sont venus sur l'île Maurice et toutes ces cultures, on partage. Exemple au Diwali, les petits gâteaux doux, malgré les religions qui sont différentes, musulmanes, catholiques, donc tout le monde vit ensemble en harmonie et célèbre cette fête de la lumière ensemble. Donc oui, il y a un grand intérêt. D'ailleurs, apprendre à connaître l'autre, c'est vraiment une façon de mettre de côté les jugements, les perceptions et avoir une ouverture. Donc connaître de la racine latine, connaître. Donc, c'est être avec l'autre. Mmh.
Joyce Viramoutou, merci beaucoup. Alors, je rappelle aux gens qu'ils peuvent aller sur le site. Vous donnez le site de votre site web, l'adresse de votre site web, s'il vous plaît, en deux secondes.
Oui, Chronique des Mascareignes.
Chronique des Mascareignes, Joyce Viramoutou, on vous entendra régulièrement à notre antenne de la part de toute l'équipe. Je vous remercie.
Merci.
Et vous souhaite une bonne journée internationale créole.
Bonne journée à tous les créoles.
DJ à l'île de la Réunion, madame, monsieur, les Silaos, le piton de la fournaise. Et nous revenons en Ontario, en le nord de l'Ontario, comme on a commencé au tout début avec professeur Aurélie Lacassagne. Rebonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez entendu peut-être les réactions, un peu les commentaires, les entrevues, les musiques, vos idées, perspectives.
Écoutez, j'ai trouvé que c'était une émission exceptionnelle, puis il y a beaucoup de choses extrêmement importantes qui se sont dites. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent, je pense qu'il faut retenir. Il y a l'idée que ces phénomènes de créolisation, elles sont précurseurs du monde de demain. Elles sont précurseurs du monde dans lequel on est en train de rentrer. On voit bien tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vous l'avez rappelé particulièrement aux États-Unis, ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui en ce moment au Brésil, qui est extrêmement important.
Exactement.
Tout ça, c'est la peur du vieux monde par rapport au mélange, au mouvement, à l'imprévisible, à tous ces phénomènes de circulation et de créolisation. Donc on est en train de passer, c'est effectivement l'avenir, et ça fait peur, et c'est pour ça qu'on voit toute cristallisation. En 30 secondes, une magnifique citation glissant à ce propos. Nous avons peur aussi de l'imprévisible et ne savons pas comment le concilier avec un possible souci de bâtir, c'est-à-dire d'établir des plans. Il faudra du temps pour apprendre cette nouvelle manière de frayer dans demain, s'attendant à l'incertain et préparant le devinable.
Oui. Professeur Aurélie Lacassagne, il y a une auditrice très très loin, très éloignée de Toronto et du Canada qui nous dit, est-ce que c'est possible d'avoir une cohabitation, je sais que c'est très complexe comme question, entre le créole et le français?
Oui, bien sûr, je pense que c'est possible. Et je pense qu'il faut soutenir les cultures et les langues créoles. Et pour ça, ça va prendre par une explication des efforts d'éducation sur ce qu'est, alors je dirais, les langues et les cultures créoles avec un C majuscule. Comme votre premier intervenant, Bertrand Dical, le disait, hein, c'est ni noir ni blanc, c'est
voilà.
Quelque chose en soi. OK, voilà. Et qu'il va falloir que les gens comprennent que le créole, je dirais avec un C majuscule, les créoles avec des C majuscules, sont des cultures, des langues en soi qui sont différentes des mouvements de créolisation, donc créolisés, comme moi je l'appréhende, j'en parle. Donc ça va être extrêmement important. Il y a un effort à faire à ce niveau-là d'éducation. Mais c'est sûr que ce monde créolisé et les mondes créoles, c'est complexe.
Oui.
Il va falloir passer du temps.
Mais en même temps, c'est une beauté d'avoir différents accents, différents continents, différentes langues, différentes couleurs de peau, différentes gastronomies, différents... Hein?
Je pense
oui,
que c'est
tout à fait.
Ça.
Et il va falloir effectivement aussi, quand je parlais de soutenir tout ça, va falloir non seulement se projeter dans l'avenir, mais aussi se souvenir du passé. Pas très loin de chez moi, de Sudbury, il y a une petite ville sur la 17 qui s'appelle Mattawa.
Ah oui, je connais.
Je sais pas si vous avez déjà
oui,
été
bien
là.
Sûr, bien
donc,
sûr. Ben,
Mattawa, en 1963, les habitants élisent le premier maire noir
voilà.
au Canada, mm-hmm. hein, Saint-Firmin Monestime. Qui vient de Cap-Haïtien, c'est extraordinaire. Hein, le premier maire noir, c'est un maire créole, c'est un francophone, c'est dans le nord de l'Ontario.
Ouais, ouais.
J'aurais envie de dire aux gens qui sont réunis pas très loin de chez vous pour le congrès de la FO, pour l'Assemblée générale de la FO, comment ça se fait qu'on n'en parle jamais? Comment ça se fait que ce personnage-là, extraordinaire, on ne l'ait pas encore mis plus de l'avant? Comment ça se fait que ce n'est pas dans le curriculum franco-ontarien?
Voilà.
Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est tellement vivide, c'est tellement ce qui est en train de se passer.
Ouais.
C'est un mouvement irrépressible, ce qu'il y a au monde, ce tout le monde. On ne pourra pas l'arrêter, même s'il y a beaucoup de gens qui vont nous mettre des bâtons dans les roues, et même s'il y a des frilosités, des crispations et des tensions, comme on est en train de le voir aujourd'hui.
Et nous sommes tellement heureux d'être, que vous soyez là, ainsi que professeur Thomas Speer de New York. Il est formidable, n'est-ce pas? Docteur Éric Pierre, Peggy Civil de la région de Gatineau, Joyce Viramutu à Montréal, et Bertrand Dical, et professeur Arnaud Carpouran à l'Université de l'île Maurice. Et bien sûr, vous êtes vraiment formidable. Et merci beaucoup, professeur Aurélie Lacassagne. Je vous rappelle son essai « Perspective créole sur la culture et l'identité franco-ontarienne ». Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une très belle journée créole. Et on se reparle très prochainement, professeur.
J'espère bien, merci.
Au revoir. Voilà, madame, monsieur, je remercie DJ Devera et aussi Sloane Ballon. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un personnage dans le cadre de la rentrée littéraire. Ici Eric Adair, je vous souhaite une excellente journée, très belle journée ensoleillée malgré le froid du nord de l'Ontario et du Canada. Bonne journée internationale créole. Au revoir.
Ah, ça va chauffer. Est-ce que vous êtes contents? Joli, ça c'est Kassa. Number one. Yo. C'est Marie. Pour moi, pour la pour
saisie si jamais un jour tombe malade. Souka c'est sa médicament d'ouni. 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 Souka c'est sa médicament d'ouni.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk on Funky Fridays, Friday mornings 6 to 9 a.m. CIUT 89.5 FM, the sound